Bienvenue à tous, merci d'être présents pour cette première séance de la deuxième année du séminaire, donc qui s'appelle cette année Penser avec l'anthropologie. Donc on est très contents pour cette première séance d'accueillir Michael Hausmann, qui est professeur d'ethnologie à l'EPHE et à Paris 10, et je voudrais remercier d'avoir accepté notre invitation et qui va parler sur la question d'être affecté par l'action rituelle. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole pour son intervention.
Ok, merci beaucoup. Et c'est un honneur de démarrer la série de cette année. J'ai un rhume, et du coup, je vais parler plutôt doucement. Et il se peut qu'il y ait des interruptions de ce genre de choses. Ok, être affecté par l'action rituelle, moi j'ai pris ça comme l'idée, c'est de fournir une sorte de modèle de la structuration de l'expérience rituelle comme étant une expérience d'un type particulier, et il s'agissait de cerner les propriétés distinctives de cette expérience par rapport à d'autres. Donc l'expérience, il s'agit bien de participer à des activités rituelles. Et effectivement, moi, je vais fournir, à titre d'hypothèse, un modèle du rituel comme mode de participation. Alors, ce type de modélisation est particulièrement difficile pour plusieurs raisons qui tiennent un peu à l'objet même de l'exercice. Tout d'abord, les rituels sont très variables. Il y en a plein de différents types. Il y a des rituels qui sont très intenses, des rituels qui ne sont pas intenses ou beaucoup moins intenses. Il y a des rituels qui sont pour des individus seuls, il y a des choses qui mobilisent des centaines de personnes. Donc il y a une variabilité énorme. Donc d'abord, il faut situer l'argument à un niveau qui puisse s'accommoder à toute cette variabilité dans les activités rituelles. Deuxièmement, des personnes réagissent de façon différente à un même rituel. Il y a certains gens qui font très attention, d'autres gens qui font moins attention, certaines personnes qui spéculent beaucoup, d'autres qui se bornent à faire les actions qu'il convient de faire. Et de toute façon, on sait que c'est le cas. Tout modèle de rituel qui ne prend pas en compte cette variabilité de la réception du rituel est tout simplement pas réaliste. Donc c'est un deuxième problème. Le troisième problème, et ça c'est un tout petit peu en raison de ma façon d'attaquer le problème, je fais partie de la tradition qui estime, qui remonte, qui se rattache à des gens comme... Ah, le cybernétique, là.
Bateson.
Non, l'autre. Bon, non, un type, un ethnologue, bon, en tout cas, qui a travaillé sur les pas les vaches, les porcs en Mélanésie. Bon, en tout cas, ça va me venir. Qui estime que l'efficacité du rituel tient en grande partie au fait que, bien que ça soit indiscutablement vécu, l'expérience elle-même demeure en grande partie conceptuellement incertaine. Et que du coup, c'est pas évident comment on peut modéliser cette chose dont l'efficacité repose sur le fait que justement elle résiste en quelque sorte à la digestion conceptuelle habituelle. Alors, moi, pour aborder cette question, donc ça revient plus ou moins à offrir un sort de modèle de qu'est-ce que c'est que le rituel. Et que ce n'est que lorsqu'on a ce modèle qu'on peut s'interroger sur les spécificités de l'expérience de participer à ce type d'objet qu'on n'a pas encore bien défini. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas, en tout cas, je soutiendrai, qu'il n'y a pas d'éléments qui permet de distinguer de façon parfaitement objective ce qui est rituel et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que si j'ai un point de vue suffisamment distancié d'un item de comportement, il n'y a aucun moyen que je puisse savoir qu'il s'agit d'un rituel, d'une mise en scène théâtrale d'un rituel, de gens qui sont en train de jouer un rituel, ou simplement une façon de, ou un jeu, même pas de rituel, ou simplement une façon un peu étrange de se comporter, qui n'est pas familier à moi, mais qui peut être tout à fait normal dans une autre société. D'un autre côté, ce n'est pas non plus un phénomène purement subjectif. Hein. Si c'était purement subjectif, alors l'idée, ça serait que n'importe quoi pourrait être rituel pour n'importe quelle raison, hein, dans n'importe quelle circonstance, et ça, empiriquement, c'est simplement faux. Et du coup, le rituel, ce n'est pas quelque chose qui relèverait d'un type d'action, ça ne serait pas non plus quelque chose qui relèverait d'un type de perception, et prenons une stratégie, alors là, typiquement bergsonienne, si ce n'est pas l'action, si ce n'est pas la perception, ça doit être la relation entre action et perception, et c'est ça que je vais soutenir, c'est qu'en fait, le rituel, c'est une façon de relier action et perception, et l'idée en gros, c'est que il faut que les gens qui participent à des rituels, comme à tout, puissent s'attendre, puissent supposer qu'il y a une relation quelconque entre ce qu'ils font et ce qu'ils ressentent et qu'ils pensent. Et que les gens qui font des rituels, qu'il y a un lien entre donc ce qu'ils pensent et qu'ils ressentent, ce que moi je vais appeler des dispositions, et ce qu'ils font. Et moi je vais appeler cette mise en relation entre ce que les gens pensent et qu'ils ressentent et ce que les gens font, une mode de participation. Alors, pour parler de mode de, participation, je vais utiliser deux types de langage de façon un peu interchangeable. D'un côté, je vais en parler comme une série de présupposés pragmatiques, largement tacites, qui régit en gros les attentes des personnes qui participent. Ou les personnes qui observent. Même, bon, je ne fais pas de distinction. Soit je vais utiliser un autre type de langage qui va être celui des régimes d'attention. C'est-à-dire que je vais dire que le rituel, c'est une certaine façon de faire attention à ce qu'on fait. Avec d'autres, entre parenthèses. Et du coup, il y aurait un régime d'attention qui serait spécifique au rituel, comme il y aurait un régime d'attention. Ben, il y en a plusieurs, on va revenir là-dessus. Et donc, mon modèle, ça vise à cette chose-là qui est déjà, vous voyez, assez abstrait. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas une série d'actions. Le rituel n'existe pas de ce point de vue comme des chaises ou des tables. Et que ce n'est pas non plus une certaine attitude ou une certaine vision que j'ai des choses dans ma tête. C'est une condition de la mise en relation de ces deux choses. Donc, d'action d'un côté et de perception, de disposition de l'autre. Mon modèle, il a trois éléments. C'est super, c'est assez simple. J'ai des actions, j'ai des dispositions des gens qui font des actions, et par disposition, j'entends des états émotionnels et intentionnels, donc de ceux qui agissent. Et le troisième élément, c'est une relation entre les deux. Et ça, c'est grosso modo mon modèle général pour tout comportement qui est censé avoir un peu de sens pour les gens qui l'emploient. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas dans un comportement, ou même on n'observe pas un comportement qui puisse avoir un sens quelconque pour qui que ce soit, si ça ne présuppose pas, d'une façon ou d'une autre, que ce que les gens font et ce que les gens pensent et ressentent sont liés d'une façon ou d'une autre. Mais ils peuvent être liés de plein de différentes façons. Et chaque différente façon qui sont reliées définit un mode de participation différent. Et parmi ces modes de participation différentes, et ce n'est qu'un modèle, hein, du coup, bon, moi j'en isole 4, mais on peut en faire 10 si on veut. Un de ces modes de participation, c'est ce que moi je vais appeler rituel. Ok, alors, dans les modes de participation peut-être le plus, celui qui est intuitivement le plus évident, c'est celui qui régit beaucoup de comportements de la vie de tous les jours. Et c'est ça. C'est grosso modo l'idée que les actions expriment les dispositions des acteurs. Si je pleure, c'est parce que je suis triste. Si je gueule, c'est parce que je suis en colère. C'est-à-dire qu'en gros, alors, c'est pas une description de ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de gens qui pleurent, pas parce qu'ils sont tristes, mais parce qu'ils cherchent l'attention des autres. Et du coup, c'est plus compliqué que ça. Mais disons que la condition de participer avec d'autres à une interaction de type quotidienne repose en grande partie sur cette présupposition pragmatique tacite que ce que les gens font découle en partie de ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand moi je suis engagé dans une interaction de type ordinaire, et c'est évident, quand j'ai dit interaction de type ordinaire, je mets ça entre guillemets comme un terme technique, je l'appelle notification, si on veut être plus nomination technique, je fais attention dans quelle mesure est-ce que les actions des uns et des autres est intelligible en référence à ceux qui sont censés ressentir et penser. Ou, si je prends dans l'autre sens, je fais attention à combien est-ce que mes ressentis et mes pensées peuvent s'exprimer, peuvent devenir manifestes au travers de mes actions. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est automatique, l'équation entre les actions et les dispositions n'est pas directe, il y a plein de simulations, de jeux, mais disons, toute chose étant égale par ailleurs, la présupposition pragmatique ou le régime d'attention favorise une interprétation des faits permettant une participation qui repose sur cette idée-là. Donc là, je suis toujours en train de me demander, en gros, compte tenu de ce que je ressens et que je pense, et compte tenu de ce que je peux insérer que l'autre ressent et pense, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, c'est un peu... Et encore une fois, si moi je suis, bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Si moi je suis là, l'autre est là, grosso modo, moi, mes actions expriment mes dispositions, ses actions expriment ses dispositions, qu'est-ce qui se passe? Moi je vois la façon qu'il agit, je prends acte de ce qu'il agit, et à partir de ses actions, je fais des inférences sur ce qu'il pense et ce qu'il ressent pour faire un truc pareil. Et ça va me toucher, ça va changer ce que je pense et ce que je ressens. Et ce que je pense et ce que je ressens va s'exprimer dans mes actions. Mes actions vont ensuite être perçues par lui, affecter ses dispositions. Et grosso modo, ça tourne un petit peu dans un sorte de loop de feedback où on s'ajuste les uns aux autres. Si moi je gueule et quelqu'un face à moi va acquiescer ou va gueuler, ben ça va changer les choses. Et disons, en gros, on négocie une réalité mutuellement accommodante en fonction de nos dispositions respectives, nos actions, on les négocie. Et c'est ça qui donne ce sorte de truc de flux où les actions sont un tout petit peu... Ben, ils sont négociés. Ils ne sont pas négociés dans le vide parce que quand même, il y a quelque chose qui surplombe tout ça et que nous avons en commun, c'est ce qu'on peut appeler l'éthos, une sorte d'empreinte à la terminologie bétonienne, c'est-à-dire le code culturel qui dit que telles actions sont effectivement une expression de telles émotions, de telles pensées. J'étais très frappé en regardant il y a longtemps les sept samouraïs de Kurosawa, merci. Et où les gens sont dans une grande peine, et c'est terrible, et j'ai un bras coupé, et les gens font effectivement, et c'était totalement étrange pour moi, parce que ça ne fait pas partie de l'éthos que l'action I, c'est une traduction d'une douleur insupportable qui convient justement de taire, tout en faisant savoir que je suis un gros douleur. Mais en gros, vous voyez, ça marche comme ça. Dans le cas des actions rituelles, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation dans laquelle les actions sont stipulées, c'est-à-dire que les actions sont prescrites, il faut faire les choses d'une certaine façon. Quelle façon? La façon qui convient de les faire. Et que les actions prennent sens dans la mesure qu'on présume qu'ils ont un effet sur les dispositions de celui qui les accomplit. C'est-à-dire que ça a un effet sur moi qui fais telles actions. Ça prend du sens dans la mesure que l'accomplissement de ces actions puisse avoir un effet sur ma façon de penser, ma façon de ressentir. Donc là, on est dans une situation, encore une fois, ce n'est pas une description de ce qui se passe. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui soit ne font pas très attention à ce qu'il faut faire, ou ne font pas très attention à la façon que ce qu'ils ont fait puisse avoir un impact sur eux. Mais, encore une fois, toute chose étant égale. Par ailleurs, ça c'est la présupposition pragmatique qui préside à la participation avec d'autres à l'activité rituelle. Ou en d'autres termes, lorsque je suis en train de poursuivre une activité rituelle, je focalise mon attention sur l'aptitude qu'aurait l'accomplissement de certaines actions d'avoir un impact sur les dispositions de ceux qui les accomplissent, ou, pris dans l'autre sens, je fais attention à combien ce que je ressens et ce que je pense ne peut pas être mis au compte du fait d'avoir accompli certaines actions. Donc en fait, c'est un truc un tout petit peu différent. Ici, ça part des dispositions qui sont bien définies, et c'est les actions qui sont négociées pour former une sorte de réalité mutuellement accommodante. Ici, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire ce sont les actions qui, étant prescrites, sont le point de départ, et ensuite, la façon qui touche les gens, ça dépend un peu des gens. Je reviendrai là-dessus. Mais grosso modo, c'est à chacun de négocier le sens, la portée, disons, de l'action accomplie selon son histoire, sa situation, s'il a bu le café le matin ou pas, tout ce genre de choses. Donc ici, je suis en train, non pas de faire attention, disons que la chose que je me demande, c'est pas, compte tenu de ce que je sens et pense et ce que j'ai à faire que l'autre pense et ressent, qu'est-ce que je dois faire, c'est plutôt compte tenu de ce que je fais et ce que je perçois que d'autres font, qu'est-ce que ça me fait? Et qu'est-ce que ça lui fait aussi? Donc on est dans des sortes de régimes un peu différents, et donc voilà deux modes de participation différents. La seule chose qui a changé, c'est la nature de la relation. Alors, c'est évident que le rituel conçu comme ça, n'a qu'une réalité statistique. C'est-à-dire que ces deux choses-là sont en fait des façons de participer qui pourraient être idéalement, virtuellement présentes dans toute situation. Une même situation peut être vécue de cette façon-là, comme il peut être vécu de cette façon-là. Et puis c'est tout à fait possible qu'une personne donnée, sa façon de participer peut évoluer avec le temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est tout à fait là-dedans, et puis à un moment, il flippe, il part là. Donc en fait, c'est assez mouvant, et ça fait qu'on doit supposer qu'il y a certaines propriétés de certains types d'événements qui vont pousser les gens plutôt à vivre les choses comme ça que les vivre comme ça. Il y a certaines contraintes, disons, certains traits des événements. Par exemple, le fait que l'activité qu'on entreprend a un nom propre, qui s'isole comme un type de truc. Le fait qu'on y convoque des autorités invisibles. Le fait qu'on procède à la répétition. C'est-à-dire que c'est... Vous voyez, c'est par exemple... Je bois de l'eau. Voilà. OK. Là, l'interprétation qui s'offre d'emblée, c'est que j'ai bu l'eau parce que j'ai soif. Donc, mon action de boire de l'eau, c'est l'expression de mes dispositions, de mes sentiments. Mais maintenant, je fais ça. Je bouge. Je change de main. Je bouge. Alors là, cette façon d'interpréter prend un coup, quoi, dans l'aile. C'est pas aussi évident. C'est-à-dire que je commence à aller là-dedans. Peut-être les actions avaient une valeur en elles-mêmes et que je dois prendre ça comme point de départ pour m'interroger sur les conséquences que peuvent avoir leur accomplissement. Qu'est-ce que ça me fait de faire ça? Qu'est-ce que ça a changé? Donc, c'est des choses qui peuvent basculer d'un côté à un autre. Il suffit, en fait, de relativement très peu. Disons que c'est plutôt ça, des sortes de poids, comment dire, des attracteurs. C'est-à-dire que l'attracteur, c'est un truc comme ça. Donc, quand je suis là, c'est presque aussi facile d'aller là que d'aller là. Mais quand je suis là, c'est beaucoup plus facile d'aller là que là. Et du coup, quand je suis en bas, face à la stabilité maximale, c'est tout là. Donc ça, c'est des sortes de points de stabilité, théorique, et qu'il y a certaines choses donc, qui vont pousser vers le renforcement de ça. Par exemple, s'il faut qu'on coordonne nos actions ensemble, mais il y a intérêt qu'on accorde nos violons, de sorte que nos façons d'apprécier ce que nous sommes en train de faire ensemble ne se contredit pas. Mais, encore une fois, on doit supposer qu'il y a certaines, au-delà des nécessités de la collaboration, il doit y avoir certaines propriétés propres à certains événements qui vont pousser les gens plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qui vont faire que les actions ne peuvent pas être ramenées à ça. Ce qu'on fait n'est pas simplement l'expression des dispositions des participants. Et parmi ces éléments-là, il y a une certaine complexité dans l'action qui fait que, justement, la situation se donne à être appréciée, on y participe plutôt sur ce mode-là que sur ce mode-là. Par exemple, ces histoires avec en buvant l'eau. Hein. Et cette complexité est due au fait que c'est comme si on faisait non pas une chose, mais plusieurs choses en même temps. Et c'est ça la complexité de l'inverse. C'est-à-dire que, quand moi, je fais comme ça, je verse de l'eau par terre, indéniable. Justement, quand je fais ça dans le cadre du rituel, je ne verse pas moins l'eau par terre, mais aussi j'offre un sacrifice aux ancêtres. Je fais ces deux choses en même temps. Et ça fait que, justement, c'est pas parfaitement clair ce que je fais. C'est un tout petit peu plus brouillé. Et cette complexité-là, qui est due au fait que les actions rituelles, et je vais revenir là-dessus, sont typiquement des choses qui combinent plusieurs choses ensemble, et qui précisément qui font que c'est difficile de les appréhender comme des simples expressions des dispositions des acteurs, et qui font que ces actions prennent une certaine autonomie, où je peux commencer à m'interroger sur la situation à partir de ces actions et non pas à partir des dispositions des acteurs, comme le fait que quand je buvais de l'eau, comme ça. Alors, le problème, c'est que très souvent, et je vais revenir là-dessus longuement, les actions rituelles ne se contentent pas de simplement superposer des actions différentes, mais très souvent, ces actions différentes qui sont composées dans les actions dans les comportements rituels, dans les activités rituelles, sont des choses qui, d'emblée, justement, sont plutôt antithétiques les uns aux autres. C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais une action rituelle qui était de dire « Oh, mon petit stylo, je t'aime tellement, et mon petit bijou de stylo, je t'aime. » Là, on peut spéculer assez bien sur qu'est-ce serait le corollaire dispositionnel de cette action-là. Hein? Quel type de disposition est-ce que ça risque d'entraîner chez moi en faisant cette action, mon petit stylo? De même, si mon action rituelle, stipulée, hein, encore une fois, c'est-à-dire qu'il faut le faire, c'est pas parce que j'aime pas trop mon stylo, mais c'est le rituel. Et là, l'action rituelle, c'est plutôt saloperie de stylo, dégueulasse. Là aussi, c'est relativement clair ce qui pourrait être les incidences au niveau des dispositions de l'accomplissement de certaines actions. Mais en fait, les actions rituelles sont typiquement du genre « Mon petit stylo, je t'aime tellement, tu es mon plus mimi des stylos. » Et là, c'est moins évident. C'est moins évident. C'est-à-dire que là, justement, les dispositions sont d'autant moins facilement prévisible ou même au niveau spéculatif, que les actions combinent des choses qui, en temps normal, sont, disons, nominalement antithétiques, incompatibles. Et ça, c'est typique, j'en reviendrai dessus, des actions rituelles. Et ça fait que les dispositions qui en résultent chez les gens qui font les rituels sont d'autant plus objets d'une énorme variété et d'une sorte de négociation, ça dépend de ses attitudes vis-à-vis des stylos en général, ses attitudes vis-à-vis de la démonstration d'émotions agressives ou de tendresse en général, le plein de choses. C'est-à-dire que chacun se débrouille un peu avec lui-même. Et c'est important parce que nous n'avons pas, et c'est super important, accès à ça. En tout cas, direct. Hein? On a ce que les gens disent, qui ressentent, qui pensent. Mais bon, c'est très bien, ce que les gens disent n'a pas une relation directe avec ce qu'ils font. Et surtout, quand les choses, c'est plus compliqué que ça. Ils pensent qu'ils disent ce qu'ils font. Mais en fait, c'est pas bon. C'est compliqué. Là. Donc, on a des accès indirects à ça. Hein? Mais ce à quoi on a un accès direct, c'est ça. Donc, par mesure d'hygiène analytique, on va se borner simplement à l'analyse des actions rituelles en voyant les dispositions auxquelles elles peuvent avoir donné lieu comme une sorte de potentialité propre à la structuration particulière des actions de telle façon ou de telle façon. Mais est-ce que ça a cette incidence-là? Ben, ça dépend des gens, quoi. Hein? Peut-être statistiquement, oui. Mais est-ce que statistiquement, c'est totalement illusoire de pouvoir. La seule chose qu'on a, c'est que les gens sont personnellement impliqués là-dedans. C'est-à-dire qu'ils font, ils font des actions, non pas théoriques, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fait, c'est eux-mêmes qui les font. Avec leur corps et leur propre personne, du coup, ils sont personnellement affectés, ne serait-ce que ennuyés à mort par le fait ce qu'ils font. Hein? Mais ils sont personnellement ennuyés. Ok, donc. Alors, je voudrais donner deux illustrations de ce type d'action, donc rituelle, dans laquelle, grosso modo, on a un régime d'attention qui part des actions qui vont vers les dispositions, mais les actions sont complexes. Il y a une part d'indétermination propre aux actions rituelles qui font que ce n'est pas évident de comment est-ce que il n'y a pas d'automatisme qu'on peut supposer entre les dispositions qu'elles sont censées engendrer chez les acteurs et les actions elles-mêmes. Chacun doit se débrouiller pour y trouver du sens, en quelque sorte, hein, au sens très large. C'est-à-dire pour y trouver une expérience dans laquelle ils se reconnaissent. Et c'est bien, parce que ça veut dire que chaque personne est personnellement engagée dans ces actions-là. Et que la personnalisation de ces actions se mesure, disons, à la non-automaticité des ressentis et des pensées qui découlent de l'accomplissement des actions qu'ils font. Donc c'est bien, les gens sont engagés là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont comme ça, crispés sur le truc. Hein. Ça peut être très décontracté ou très solennel. Ouais. Mais grosso modo, il n'y a pas de doute, c'est eux qui le font, pas quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas besoin de plus. Tout le reste, on spécule. Là où on ne spécule pas, c'est de dire que quand même c'est organisé de telle sorte à mettre en exergue la surposition intéressante entre agression et tendresse, que ces deux choses peut-être sont des contraires, mais dans le contexte de l'accomplissement de ce rite-là, peut-être pas si contraires que ça, mais bon, on voit un peu les enjeux, disons, que met en place l'action rituelle et qui forment un peu le creuset au sein duquel chacun va finalement apprécier ça comme une expérience propre. Alors, la première réaction, la première chose que je vais montrer, c'est une tradition occidentale qui est en déclin, c'est vrai, mais pas tout à fait. J'ai du mal à trouver un origine ethnique à ce truc-là. L'Europe de l'Est, juif ashkénaze, c'est un peu flottant. C'est la gifle menstruelle. Grosso modo, une fille a ses premières règles, elle va retrouver sa grand-mère ou sa mère, elle lui dit, maman, j'ai mes règles, c'est merveilleux. La mère va dire, mais c'est merveilleux ma chérie, félicitations, bang! La fille totalement, mais pourquoi tu as fait ça? C'est totalement inattendu et une sorte de trahison. La mère, typiquement, dit, ben je sais pas, on me l'a fait, ou c'est comme ça qu'on doit faire, ou bon, et à la rigueur, dans certains témoignages, il y a l'idée que ça donne des joues roses. Ça fait qu'on a bonne mine toute sa vie. Bon. Alors, on va voir. Ça, c'est piqué, parce que je ne l'ai pas vu, hein. C'est piqué parce que typiquement, ça a lieu dans une situation qui est de facto unisexuée. Hein, il n'y a pas d'homme dans les parages. Là, j'ai piqué d'un film, Diablomante. Ça dure 30 secondes. On peut même le regarder deux fois. Ça se voit ? Allez. Voilà, c'est bien. Bon, c'est une grande fille maintenant. C'est-à-dire que... Alors, là-dedans, c'est une action qui, en quelque sorte, acquiert une sorte de valeur en elle-même, puisqu'on ne comprend rien, quoi. C'est-à-dire que ce n'est que l'expression des dispositions des acteurs dans la mesure qu'ils ont l'intention de faire ce rituel-là, ou dans le cas du film, pas la fin, mais au-delà, non. Enfin, ce qui se passe, c'est un peu confondu, c'est tout à fait comme ça, comme un truc de stylo. Alors, il y a des trucs symboliques, on peut faire des trucs là-dessus. Hein, et l'idée, c'est grosso modo, je suis en train de perdre du sang par le bas, vlaf, on me donne une baffe, j'ai des joues roses, ça me donne le sang vers le haut, ça... comme ça, bon, ou on peut faire un truc, le bas du corps et le haut du corps, c'est comme ça, hein, c'est le truc du français d'Aïtien, c'est pas mal, très bien là-dessus. Donc, on peut faire des trucs, les joues roses, les roses qu'on laisse tomber, la perte de la virginité, mais la véritable nœud de ce truc-là, la complication, ce qui le rend difficile à digérer, c'est effectivement l'épaisseur de ce qui se passe au niveau relationnel. Je veux dire qu'on a des trucs compliqués qui sont mis ensemble. D'un côté, c'est la reconnaissance par la mère que désormais la fille accède à des capacités procréatrices dont jusqu'à là dont jouit la mère. Et du coup, ça signe une sorte d'égalité. Elle est accueillie en quelque sorte par la mère dans l'état d'être à l'état de femme. En même temps, s'il ne faut pas oublier, c'est parents et enfants. Ce n'est pas la première baffe qu'elle reçoit, la fille. Hein. Donc on a la côté asymétrique tout à fait également mise en scène. Et d'ailleurs, ce qui compte ici et ce qui fait que c'est tellement troublant, ce n'est pas la baffe. C'est la baffe plus le signe d'affection. C'est ça qui... On comprend. C'est le mon pauvre, je t'adore. Et puis, bon, il y a un autre truc un peu derrière, bon, qui est aussi le fait que si les capacités procréatrices de la fille sont en ascendance, celles de la mère sont en descendance. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de transmission de l'aptitude créatrice qui est transmise par la mère de la fille. Et dans beaucoup de sociétés, comme la nôtre, mais dans beaucoup d'autres sociétés, encore une fois, française, elle tient beaucoup de travail là-dessus, l'idée, c'est que lorsque, disons, l'état de femme et l'état de mère sont vus comme étroitement liés, en fait, c'est un jeu à somme nulle. À chaque gagnant, il y a un perdant. Et qu'il y a une certaine résistance qui fait que, face à une situation où la fille commence à avoir des enfants, s'accompagne normalement avec la mère qui cesse d'en avoir, cette passation des capacités procréatrices n'est peut-être pas toujours... embrassé par la mère, et ça donne. Donc, là-dedans, il y a la rivalité, il y a les histoires parents-enfants, il y a le sang, il y a la violence, il y a le fait d'être une femme. Tout ça mis ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens, face à cette situation-là, comme ils disent, ils ne savent pas très bien pourquoi tu as fait ça. Mais c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une situation un peu caricaturale où l'action
s'impose comme premier.
Le problème, c'est que l'action n'est pas très facile à comprendre de quoi ça retourne, quoi. Et en fait, les participants à ce type de situation, en fait, ils sont un peu comme les j'aimais beaucoup cette théorie de la perception artistique, dans laquelle on regarde un portrait et en fait, l'œil ou l'attention part, par exemple, des yeux et extrapole ce que devrait être, ce que devraient être les oreilles. Et puis, il se casse la gueule parce que les oreilles, c'est pas tout à fait ça. Non, on recommence. Je pars des oreilles et puis je déduis ce que pourraient être les lignes de la mâchoire et paf, c'est pas ça que je vois. Et pour, en fait, l'esprit continue à chercher, à continuer à. Et ce mouvement de l'attention qui ne trouve pas de point d'arrêt est traduit par la sensation de ah, ça c'est un portrait très vivant. Il y a quelque chose là, il y a un truc là-dedans. Et c'est un tout petit peu pareil ici. C'est-à-dire que le truc est designed de sorte que. Il est très très difficile d'arriver au bout afin d'assigner à cette action, et donc à l'expérience que définit cette action, un sens univoque, quelconque. Et les gens, c'est très intéressant, c'est très touchant aussi, les femmes qui l'ont subi ça, et qui en fait l'ont oublié, et qui maintenant, j'ai tout ça tout sur l'internet, et qui maintenant ont des filles en âge d'avoir leurs règles et se demandent est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas faire, et se demandent qu'est-ce que ça voudrait dire. Est-ce que ça veut dire que ça signe le destin douloureuse qui est adopté à la femme? Est-ce que c'est pour prévenir contre des relations adultères? Bon, on peut faire plein, première étape. On peut faire plein de spéculations, c'est vrai, mais aucune de ces spéculations est à la hauteur de l'expérience qu'on a eue là. Et du coup, on est dans une situation très curieuse dans laquelle, en fait, si on veut vraiment saisir le sens, la portée de cette action, ben, il faut le faire. Et que du coup, le rituel contient très très souvent le mécanisme de sa propre reconduction, dans laquelle, effectivement, on se trouve en train de le faire, car de le faire est porteur de plein de choses. Et c'est super important ce que ça porte. C'est-à-dire que, là-dedans, encore une fois, je ne veux pas rentrer beaucoup dedans, on peut peut-être revenir un peu. Tous ces trucs, ce n'est pas anodin, évidemment, le symbolisme qui existe dans le rituel, c'est-à-dire le système des idées et des valeurs, c'est exactement les mêmes qui se trouvent en dehors du rituel. C'est pour ça que l'analyse du symbolisme ne va pas nous aider à comprendre ce que le rituel aurait en propre. Justement, c'est ce qu'il n'a pas en propre, c'est le symbolisme. Et que toutes ces histoires-là, des hiérarchies, de l'idée que la féminité et la maternité vont de pair, que c'est violence, qu'il y a une passation, que la relation avec la mère et la fille, on est le canal privilégié, que bon, tous ces trucs-là, qui renvoie à tout un tas de conceptions, d'idées, de valeurs culturelles que nous avons dans nos sociétés, on les a gratuitement. On n'a pas besoin d'en faire une théorie ni une description. Il suffit de faire ça. Point. C'est un peu comme une sorte de fichier zippé. C'est un peu incompréhensible tel quel. Mais lorsqu'on défait, en fait, on a plein de valeurs, d'idées culturelles qui sont véhiculées par ces. Et c'est ça, évidemment, une force des rituels, c'est des mécanismes de transmission culturelle uniquement fondés sur l'action. Pas uniquement, mais disons que fondés de façon privilégiée sur l'action. Je compte les paroles rituelles comme des formes d'art. Et que du coup, bon, ben, ça mène la chose. Et puis en même temps, c'est quelque chose à l'aune de laquelle, maintenant, je vais évaluer ma place dans le monde. Et, mais on va revenir là-dessus, c'est un tout petit, c'est-à-dire ça va fournir une sorte de, ça va devenir une référence un petit peu privilégiée pour l'idée que féminité, maternité vont ensemble, mère-fille c'est important, c'est pas facile, c'est douloureux mais on a la bonne volonté, c'est un tout petit peu étrange l'idée que la référence cardinale, ou une des références cardinales pour ces idées-là, soit quelque chose dont on n'est absolument pas en mesure de dire de quoi il s'agit en fait. C'est-à-dire que le propre des rituels, et ça c'est un exemple un peu poussé à l'extrême, c'est que ce sont des choses qui sont expérientiellement très ancrées, Hein, le corps est là, c'est moi qu'à si ça arrive. Hein, et en même temps qu'ils sont conceptuellement assez flottants, assez indéfinis. Et c'est fait pour. C'est-à-dire, c'est d'autant plus riche et évocateur avec l'esprit qui, qui travaille dessus, qui en fait, que justement, ça résiste à une sorte de apposition, une sorte de description univoque, une sorte d'interprétation univoque, qui en ferait de lui la simple expression de disposition des acteurs. Justement, non. Donc ça, c'est quand même une sorte de version avec l'eau, mais un peu plus avec ça. Alors ça, c'est un exemple un peu hard. Un exemple un peu moins hard, c'est le fait d'allumer une bougie votive à la Vierge. Donc, je viens, je mets ma pièce de monnaie dans le truc, je tombe, je prends une chandelle, je vais choisir l'endroit où je mets le chandelle, j'allume le chandelle, je le fais face à la statue de la Vierge Marie, j'allume, je monte, je m'agenouille ou pas, je me compose d'une certaine façon physiquement, j'adresse des paroles à la Vierge Marie. Ce qui est vraiment très étrange, c'est que je ne suis pas un imbécile, c'est la différence entre la Vierge Marie et un bout de bois. Pourtant, je ne tourne pas le dos à la statue. Comment ça se fait? C'est-à-dire que dans la mesure que j'adhère à l'idée de « il existe une Vierge Marie », elle n'existe pas là, quand même. C'est-à-dire qu'elle est en mesure de m'entendre quand je lui adresse des paroles, à quel que soit l'endroit où je fais. Donc, est-ce que c'est parce que la Vierge Marie n'écoute que des gens polis qui lui font face? Ou qu'elle apprécie des gens qui sont francs? Non, c'est pas comme ça. C'est ce type de raisonnement. Là, on est dans le type de raisonnement qui est du genre pourquoi je verse des libations d'abord à cet ancêtre-là, puis ensuite à cet ancêtre-là, parce que lui, c'est l'aîné de l'autre. Donc je suis en train d'expliquer l'action rituelle en référence à autre chose que lui. C'est sorte d'attributs qu'auraient ces entités invisibles. Et bon, c'est une pente terriblement glissante, et cet exemple-là le montre. Donc, dans ce truc-là, je suis en train de faire attention à ce que je dois faire, en gros. Mais ce qui reste un peu comme ça, c'est exactement qui est la Vierge Marie. Et effectivement, la Vierge Marie, dans le cadre de cette performance-là, est un peu une entité invisible Vierge Marie, trait d'union, bout de bois. Et que ça, cette sorte de d'indétermination de la nature de la Vierge Marie, n'est pas gênant du tout. Je vais revenir là-dessus, dans la mesure où ce qui compte, c'est ma relation avec la Vierge Marie. Et ma relation avec la Vierge Marie est très strictement définie par les actions que je fais, les actions stipulées. La Vierge Marie, elle m'écoute. Elle veille sur moi. Elle est plus, généralement plus haut. Ce n'est pas que moi, elle écoute tout le monde. Mais ce n'est pas gratuit. Il faut donner du sien. Il y a plein d'éléments dans la performance même des actions rituelles qui définit, qui circonscrit, qui de façon assez précise la nature de la relation de la Vierge Marie dont j'ai l'expérience quand je fais ça. Que la Vierge Marie soit, disons, l'identité exacte des termes de la relation, de cette façon souvent, qu'elle soit vraiment vierge ou pas, qu'elle porte du bleu blanc toujours ou pas, je ne sais pas, on entend pas. Non, ça, c'est ce qui compte. Et c'est pas grave. Donc là, on a une situation, mais je vais revenir là-dessus, dans laquelle, et c'est typique des actions rituelles, où les termes de la relation passent en second par rapport à la relation elle-même, la nature de la relation, relation qui est définie par les actions. Et typiquement, comme les exemples qu'on a vus, autant les actions rituelles définissent les relations, autant ces mêmes actions sont faites de sorte que les termes de la relation restent flous, tentatives, incertaines, hautement évocateurs. Alors, juste un tout petit, j'ai un minuscule petit clip, mais je vais, qui est rigolo, sur cette histoire de faire attention. Il ne s'agit pas non plus de comme ça, de faire attention à ce qu'on fait. Il faut simplement le faire ce qu'il faut.
Là, je l'inclus plutôt comme, comme petite chose rigolote. Alors, c'était pas pour dire, c'était juste pour dire que vouloir faire des rituels comme il faut ne veut pas dire qu'on est crispé sur le fait de faire. C'est simplement que on fait attention à faire. Oui, non, mais c'est le petit peu. Ok. Alors, la question que je voudrais maintenant poser ou proposer, c'est ce type d'objet-là qui fournit donc cette expérience, ce mode d'expérience un peu particulier, c'est-à-dire mode d'expérience qui procède de cette présupposition pragmatique-là, ou qui se traduit, ou qui se résume dans un régime d'attention de ce type-là, une certaine façon de faire attention à ce qu'on fait avec d'autres, et là je fais attention à combien les actions sont à même d'induire des effets chez les dispositions de ceux qui les accomplissent. Quel est le vocabulaire, et que de pose ces actions ne sont pas des actions simples, mais relativement complexes, ce qui fait qu'elles sont difficilement ramenables à une situation comme ça, c'est-à-dire j'ai du mal à les interpréter comme simplement l'expression des dispositions des acteurs. Quel est le bon langage pour parler de ces trucs-là? Bon. Personnellement, moi, j'opte pour un langage relationnel. Alors, c'est-à-dire que pour moi, les rituels ne racontent pas des histoires. Il fournit aux participants certaines expériences. Et l'expérience de certaines réalités. Et des réalités rituelles. Celles qui sont mises en forme et en acte au cours du rituel. Ça veut dire que toute explication du rituel qui prend la forme d'une histoire, c'est une sorte d'interprétation facultative, partielle, du genre le chaman voyage au-delà pour chercher la partie de l'âme de la personne qui est perdue, il se bataille avec des gens. Ouais, une histoire qu'on raconte. Faux. Dans la mesure où c'est peut-être intéressant d'avoir des gestes comme ça, mais cette explication-là n'est pas le mécanisme qui sous-tend le fonctionnement ou l'efficacité du rituel. Pourquoi? Parce que les rituels, c'est pas ce qu'ils font. Ils ne racontent pas des histoires. Ils fournissent certaines expériences aux participants. Quelles expériences, quelles réalités dont il fournit l'expérience, c'est ça la question, c'est de participer à certaines relations. Et quand moi je dis relation là, je ne veux pas dire relation logique, pas relation causale, pas relation analogique, je veux dire relation au sens interpersonnel. C'est-à-dire que le modèle de la relation interpersonnelle sous-tendu par un investissement intentionnel, affective avec tous les éléments qui sont propres à les interactions relationnelles qui sont accountability, adaptability, tous ces trucs là. Donc en gros, moi le modèle des relations rituelles sont des relations interpersonnelles et pas à la façon des relations structurales par exemple, plutôt des trucs qui relèvent des rapports, et je sais qu'il y a toute une tradition philosophique qui fait cette distinction. Je le prends
et j'opte pour relation. Hein? C'est-à-dire des relations entre deux sujets et pas avec un sujet vis-à-vis des objets. Hein? Le stylo est sur le crayon. Voilà. Là, c'est moi qui établis le rapport entre ces deux éléments. Il n'y a qu'un sujet, c'est moi. Pour que j'aie une relation, dans mon sens, interpersonnel, il faut que j'ai deux sujets. Donc, c'est les relations mutuelles sont plutôt des relations de type intersubjectif, si on veut. Mais encore une fois, attention, les termes de la relation sont subordonnés et restent incertains par rapport à la relation elle-même qui, elle, est définie par les actions qu'on se doit d'accomplir. Hein? Donc, quand je suis en train de faire avec ma Vierge Marie, hein, en fait, je suis en train de construire, de mettre en place, de mettre en forme et en acte une relation entre moi et la Vierge Marie, c'est un peu beaucoup dire. Vierge Marie, trait d'union, bout de bois. Et puis, c'est pas grave, parce que la Vierge Marie, de ce point de vue-là, entre guillemets, Vierge Marie, trait d'union, bout de bois, elle reste un peu indéfinie, mais moi aussi, hein, ça va. Je veux dire que les termes de la relation... Mais la façon qu'on est censé avoir une relation, là, très, très strictement différente. Et donc, je suis en train de mettre en place cette relation-là. Mais si je démonte un peu cette relation, en fait, ben, il y a... Qu'est-ce qu'il faut ? Il y a la pièce d'argent, il y a le chandelle, il y a la lumière, il y a les prières, il y a le corps, il y a le statue. Tout ça, en fait, j'ai un réseau de relations. Et que ce que j'appelle la relation avec la Vierge Marie est en fait toute une constellation, tout un réseau de relations, et moi je suis dedans. Et bien c'est ça mon expérience actuelle. J'expérimente le fait d'être dans ce réseau de relations. C'est-à-dire que je suis en relation avec la Vierge Marie, en situation donc rituelle. Et quand j'ai vécu ça, ben, ça colore un peu ma façon de voir et d'agir une fois que c'est terminé. C'est-à-dire que, grosso modo, le fait de participer à des relations, d'avoir l'expérience de ces relations rituelles, font que par la suite, je ne vais pas tout à fait parler et agir de la même façon qu'avant. Je veux dire, peut-être, c'est pas une question de croyance, mais peut-être, vas-y ben une cierge à la Vierge. Ça peut pas faire mal. Ou, par exemple, je suis dans une ville que je ne connais pas, je vais mettre une cierge à la Vierge. Bon. J'agis. J'ai des actions et des énoncés qui présupposent, qui impliquent donc, une relation entre moi et la Vierge Marie. Et où est-ce que cette relation entre moi et la Vierge Marie s'est réalisée, s'est actualisée? Dans le rituel. Donc la réalité du rituel prenne une existence en dehors, relayée en quelque sorte par prédication, par implication, par mes actions et mes pensées. Donc, avec la mère et la fille, en gros, au cours de ce rituel-là, se met en place une relation rituelle entre la mère et la fille. Et cette relation rituelle a été expérimentée par l'une et l'autre et colore désormais. Alors, quoi ? Tout ! C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe dans le rituel, c'est que je n'acquiers pas un message, une information. J'acquiers un contexte. C'est-à-dire que j'acquiers un nouveau point de vue. Je ne vois plus les choses de la même façon. Maintenant, elles sont coloriées, elles sont infléchies par cette expérience que j'ai vécue là. Alors, c'est le cas de toutes les expériences, n'est-ce pas ? Hein ? Je vais à une pièce de théâtre, je m'engueule avec ma femme, c'est une expérience qui va colorier ma vie conséquence, du coup. Aucun problème. Donc, il y a doit avoir quelque chose de particulier avec les expériences rituelles qui fait que ce n'est pas réductible à un engueulade avec ma femme ou une pièce de théâtre. Et ça, c'est lié au fait que les relations rituelles que je suis en train de nouer et dont j'ai l'expérience, et c'est encore une fois, c'est l'expérience que je porte. C'est pas une information, c'est pas un message, c'est pas une valeur. Il se peut maintenant que quand moi je dis, tiens, vas-y, allume une cierge, ou que je suis dans une nouvelle ville et que j'allume une cierge, quelqu'un me voyant de l'extérieur dirait de moi que je crois que la Vierge Marie m'écoute. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je n'ai pas dit ça. Ça, c'est une interprétation extérieure de certaines actions. Ce que j'ai dit, en fait, c'est que moi, j'ai vécu quelque chose avec la Vierge Marie en faisant ceci. Point. Maintenant, peut-être pour vous, ça peut marcher, ou pas, peut-être pas. Mais lorsque moi, je fais ces choses-là, je suis engagé, j'ai l'expérience d'une relation rituelle, et cette relation rituelle a certaines propriétés qui les distinguent des relations de tous les jours. Il y en a plein, peut-être plein, mais bon, j'en mentionne que deux. Le premier, c'est que les relations rituelles sont incroyablement évocatrices et intégratrices en même temps. C'est-à-dire que les relations rituelles sont composées en piquant des éléments de différents champs de l'expérience. Hein. Là, il y a des pièces de monnaie, des chandales, il y a le feu, il y a le truc corporel, il y a la sculpture de bois, il y a plein de différentes choses. Et le plus que ça intègre d'éléments disparates pris de différents domaines de vie, évidemment, le plus évocatrice que c'est. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est riche, ça afforde des spéculations et des ressentis et des plein. C'est super riche. Donc, ça, c'est une chose. Justement, ce n'est pas tellement le cas de beaucoup de relations non rituelles qui sont précisément propres à certaines situations dans lesquelles elles sont instrumentalement imbriquées, qui fait qu'ils n'ont généralement pas cette sorte de richesse d'évocation que peuvent avoir les relations rituelles. Deuxièmement, non seulement, donc il y a des éléments disparates qui sont mis ensemble sous la forme d'une totalité structurée. C'est-à-dire que il n'y a aucune relation nécessaire entre la chandelle, la Vierge, le feu et une pièce de monnaie. Mais dans le cadre de l'expérience de cette relation rituelle, toutes ces choses sont des aspects différents d'une même chose. C'est-à-dire que tous ces éléments-là acquièrent une relation interne, un rapport interne, et pas du tout un rapport externe comme la causalité. Et que du coup, ça, j'ai un point de vue ou une expérience qui me permet d'apprécier, encore une fois, la pièce de monnaie, la flamme, la Vierge Marie, mes paroles, comme étant une même chose. Et évidemment, ça, c'est assez puissant. Je veux dire que j'exagère, mais d'une façon idéale, je ne peux plus penser pièce de monnaie sans penser chandelle. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais vous voyez les directions où j'y vais. C'est-à-dire que ça, en fait, ça fait des grumeaux, quoi. Et grosso modo, la vie sociale, c'est composé de grumeaux. C'est pas une soupe homogène. Quoi. Il y a plein de trucs dedans. Les deux choses de la vie sociale, grumeaux et toujours circulaire. C'est pour ça les relations en termes de causalité, ça n'apporte pas beaucoup de compréhension. Si c'est pas circulaire, ça ne se stabilise pas et du coup, ça n'existe pas. Mais du coup, c'est plutôt les formes à laquelle on doit s'interroger et notamment les formes, en l'occurrence, de l'action rituelle. Qu'est-ce qu'on a pris exactement? Pourquoi est-ce qu'on met la pièce de l'argent avant d'allumer le bougie? Tout ça, c'est important. Hein. C'est-à-dire, le design est quand même bien étudié. Ça stabilise. Et donc, j'ai perdu. ça, c'est long. Oui. Donc, hautement intégrateur. Et donc ça c'est la première chose, le premier élément, disons, des premiers traits des relations rituelles qui font qu'ils sont un peu spéciales. Ils font qu'ils sont un peu différents de l'engueulade avec ma femme ou le pièce de théâtre. La deuxième chose, c'est que typiquement ils intègrent ce qu'avec Carlo Sevri on a appelé la condensation rituelle, c'est-à-dire qu'ils rassemblent dans un même suite d'action, des modes de relation qui, en temps normal, sont nominalement incompatibles ou antithétiques. C'est
mon petit stylo, je t'aime tellement, voilà, ou la baffe et l'affection en même temps, le bout de bois et l'entité qui m'écoute, bon, tout ça, c'est-à-dire que, en fait, il y a comme une sorte de scrunchage ensemble d'éléments qui, en temps normal, sont bien séparés, reconnus comme séparés. Et que du coup, ces relations-là se distinguent assez nettement des relations quotidiennes, précisément par le fait qu'ils combinent de façon systématique les éléments qui sont normalement séparés, voire mis par des relations de contrariété antithétique. C'est par exemple dans les rites d'initiation, bon, c'est l'exemple que je cite souvent, grosso modo, il y a deux types de secrets. Le secret, c'est un truc à trois termes. Hein. Soit je dis, bon, ben, est-ce que vous voulez bien quitter la pièce parce qu'en fait, Daphné et moi, on a des choses à se dire, vous concernant. Bon, là, on vous met au courant du fait que vous êtes exclu, l'objet du secret. Et puis, il y a d'autres types de secrets où, en fait, vous n'êtes pas au courant. En fait, Daphné et moi, on a parlé de vous avant. Même pas au courant que vous étiez exclu. Donc c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas être à la fois exclu et pas exclu. Ben, dans les rites d'initiation, typiquement, les deux choses sont à la fois l'un et l'autre. C'est-à-dire que pour chaque secret dévoilé, il y a nécessairement un secret tu qui est derrière, et pour chaque secret dissimulé, il y a forcément une révélation qui se fait en dehors. Alors c'est pas que ça n'existe pas en dehors des trucs initiatiques. Hein. C'est-à-dire je drague cette femme-là pour que ma femme ne devine pas que c'est l'autre qui m'intéresse. Ce genre de choses-là, on peut faire le truc. Hein, je t'aime moi non plus. Bon, c'est tout à fait faisable. Mais, dans le cas de rituel, cette sorte de combinaison de contraires est développée de façon particulièrement systématique sous des formes particulièrement synthétiques. Et encore une fois, c'est plutôt... C'est pas oui ou non, rituel. C'est plus ou moins. Hein, parce que, de toute façon, c'est un truc statistique. Mais, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc, il y a ces choses-là qui se distinguent de la vie de tous les jours et qui, justement, parce qu'elles combinent des éléments qui, en temps normal, sont séparés et qui fait qu'elles résistent à pouvoir être ramenées à une explication en termes de façon de faire et de façon de penser, de façon d'interagir habituelle, acquièrent une certaine autoréférence. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent une valeur en elles-mêmes. Justement, elles prennent les valeurs d'une façon qui ne peut pas être ramenée à des explications en termes de ce truc-là. Et c'est-à-dire que les actions acquièrent une certaine autoréférence, une certaine autonomie. Alors il y a plein de cycles de bouclage pour renforcer cette autonomie, cette autoréférence. Mais ça fait que on a quelque chose, donc une sorte de référence, des actions qui véhiculent beaucoup de valeurs et des idées culturelles qui sont la mise en forme et en acte de certaines relations qui fournissent un nouveau point de vue, un nouveau contexte pour considérer le monde, qui sont en quelque sorte pas incontestables, mais qui résistent un tout petit peu plus à la contestation au terme d'une intelligibilité de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils, justement, ils sont un tout petit peu plus autonomes, plus indépendants. Et là, je peux accrocher tout ce que je veux là-dessus. Des systèmes de domination, de trucs de clashage, des définitions d'identité. C'est-à-dire que tous les rituels me fournissent maintenant des sources d'autorité qui, encore une fois, ne sont pas incontestables, mais qui résistent un peu plus. Donc, c'est des trucs qui sont extraordinairement utiles. C'est des trucs, c'est des mécanismes de transmission culturelle excessivement puissants. Il suffit de les faire. Pas besoin de penser. C'est génial. On a absolument tout. En même temps, on acquiert un point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, de ce point de vue-là, le rituel est mieux vu. Encore une fois, ça ne passe, ça fait pas passer des messages. Ça instaure un contexte. Et un contexte, ça l'instaure personnellement. C'est-à-dire ça fournit aux gens qui le participent des expériences à la lumière de laquelle ils vont se voir différemment, voir leur environnement différemment. Ça recontextualise les choses. Et ça recontextualise les choses de deux façons au moins. Maintenant, je sais que d'une certaine façon, d'ailleurs, je l'ai expérimenté,
une chandelle est une pièce d'argent, est la relation avec la Vierge Marie, est une flamme. Et tout ça, en fait, c'est le même genre de choses. Hein. Et puis, ce n'est pas accidentel. Hein. Avec la pièce d'argent, la convertibilité infinie de l'argent, on va appliquer ça sur le truc de la prière. Et pas mal, hein. Ça donne des trucs, quoi. C'est pas besoin de le penser, il suffit de le faire. Donc, j'ai tout d'un coup, ça recontextualise les choses en termes des grumeaux à laquelle j'ai participé. Et en plus, ça me donne une posture, une position, un point de vue pour moi, pour réévaluer et redéfinir l'ensemble des relations qui définissent ma vie sociale à moi. C'est-à-dire que maintenant, grosso modo, les relations rituelles sont dans une position un peu méta par rapport à les relations de la vie de tous les jours. Ils fournissent donc des moyens d'évaluer les relations entre ces relations. Maintenant, à la lumière. Alors, en gros, cette recontextualisation comporte deux éléments. Qu'on peut caractériser comme le travail du rituel. Tout d'abord, ça fournit un idiome particulier pour parler des relations. C'est grosso modo le symbolisme. Hein? Quand je parle de ma relation avec la Vierge Marie, là on est parti dans le prière, la posture, l'écoute, la bienveillance. Donc, c'est tout un symbolisme qui est en fait j'ai horreur de ce truc, de langage, mais bon. Hein? Pour parler des relations, les relations rituelles. Et puisque c'est des relations, ça désigne les agents qui participent à ces relations. C'est génial. Hein? C'est-à-dire que j'ai la version sociologique, et de là je peux tirer tout le fonctionnalité du rituel. Et puis j'ai le côté symbolique, je peux tirer tout le côté interprétation du sens du rituel. Et en fait, ce sont des choses qui contribuent à mon aptitude à pouvoir faire de l'expérience rituelle le plateforme pour la recontextualisation de ma vie. Alors, en gros, ça c'est le modèle. Juste pour simplement comme ça, ça peut aller dans deux sens différents. Un sens, et là c'est vraiment dans deux secondes, hein. Mais c'est simplement pour bon. Donc, grosso modo, on avait ça, et puis on avait ça. Vie de tous les jours, rituel. C'est quand même navrant, profane, sacré. Bon, c'est quand même dégoûtant, c'est pas possible. Des humains complexes comme nous, qui n'y a que deux façons d'être, c'est totalement invraisemblable, c'est pas possible. Non. C'est pas possible, il faut qu'on ait d'autres. Et donc, j'ai toute une râlerie contre la notion de performance dans laquelle on regroupe tous les trucs. Et du coup, j'en ai un autre ici. Donc, j'ai fait quatre, mais on peut multiplier. C'est encore une fois, ce n'est que des modèles. C'est-à-dire que ce n'est pas des taxonomies de phénomènes. C'est des outils pour comprendre des phénomènes empiriques dont la plupart sont pas des exemples purs, ni de ça, ni de ça, ni de ça, ni de ça, mais qui sont des mixtes. Bon, mais, par exemple, j'en ai un qui s'appelle, qui va s'appeler jeu. Et grosso modo, qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Il faut pas que mes actions soient l'expression de mes dispositions. Il faut que mes actions conforment avec certaines conventions ou règles reconnues comme différentes de celles qui régissent la vie de tous les jours. Hein? Le problème, c'est que si je joue un jeu que, en suivant les règles, c'est en même ça ne vaut pas la peine de jouer. Il faut que j'ai envie de jouer. Il faut que j'ai envie de gagner, ou j'ai envie d'être le plus beau, ou il faut que je m'implique, quoi. Ah bon, mais je crois que la règle, c'est justement, il ne faut pas s'impliquer, parce qu'il ne faut pas que mes actions soient le reflet de mes dispositions. Eh oui, il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que mes actions se conforment, ne soient pas l'expression de mes dispositions, mais soient conformes à des règles, et en même temps, ou à des conventions, et en même temps, il faut qu'ils en soient l'expression. Et c'est pour ça que je suis comme ça. Et c'est pour ça que le jeu, il a ces trucs si particuliers qu'on trouve par ailleurs, des mauvais joueurs, des tricheurs, des arbitres. Parce qu'en fait, c'est pas évident. Et ça, c'est beaucoup plus complexe déjà que le rituel. Et puis j'ai un troisième, mais puisque bon, je suis d'inspiration structurale, c'est forcément ça. Je vais l'appeler spectacle.
Et grosso modo, ah oui, non, peut-être avant. Dans ce topic-là, le jeu est exactement comme l'interaction ordinaire. Exactement. Sur tout, pareil, sauf une chose. C'est que les conventions qui régissent les actions sont reconnues comme autres que les conventions qui régissent les actions de tous les gens. Et c'est tout. Point. Et ça rend la chose très difficile. Parce que du coup, ah bon, du coup, il y a de l'habilité là. Et du point de vue du jeu, même en voici, ce n'est que les conventions qui comptent. Ces conventions qui généralement ne vont sans dire, ben, finalement, la vie ordinaire, ce n'est qu'un grand jeu, hein, puisque ça ne tient qu'aux conventions. Du point de vue du jeu, c'est comme ça. Ici, non, mais je veux dire qu'il y a une sorte de l'habilité, comme ça. Bon, je reviens là. Donc là, spectacle. J'ai des termes exhibition, techniquement. Grosso modo, c'est exactement comme le rituel. C'est-à-dire que c'est des actions d'abord qui prennent de la valeur et du sens dans la mesure qui ont un effet sur les dispositions, sauf pas sur celui qui agit. C'est-à-dire que moi, pour que mes actions puissent avoir un effet sur d'autres, il convient à ce que, justement, il y a une certaine distance entre mes actions et moi, de sorte que moi, je ne suis pas affecté par mes actions. Alors, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais grosso modo, si je joue quelqu'un qui est en colère, il ne faut pas que je sois en colère, parce que sinon j'ai les muscles qui raidissent, et puis c'est nul. Il faut qu'au contraire, je sois très très relax. Et là où il y a les muscles qui raidissent, c'est chez les autres. Hein. Voilà. Le problème, c'est que si je ne fais que la simulation, c'est nul aussi. Du coup, il faut que je sois affecté par mes actions. Parce que sinon, je vais parler comme ça, et puis j'ai un peu de vie, mais je n'ai plus à respirer. Je vais à la pièce et je rentre dans le truc. Il faut que quand même je sois affecté par mes actions, ne serait-ce qu'à pouvoir assurer une sorte de monitoring de ce qui se passe. Donc là aussi, c'est problématique. Il faut que justement je me distancie par rapport à mes actions tout en étant affecté par mes actions. Donc, et on peut multiplier d'autres. Et l'idée, en gros, c'est la raison pour laquelle j'ai introduit ça, c'est parce que le rituel, ce n'est qu'une mode de participation parmi d'autres. On a largué le sacré profane, là. Il y a des différences intéressantes. Hein. Là, on peut passer dans la continuité, ici c'est plutôt une discontinuité, mais bon, il y a plein de trucs qu'on peut expérimenter. Il y a quatre termes, tous les outils structurels vont faire ça, mais l'idée, c'est que la grande majorité des événements empiriques sont complexes, c'est-à-dire ce sont des mixtes de ces choses-là. Elles sont combinées dans les trucs empiriques de façon intéressante. C'est le rituel enchâssé dans du jeu qui se transforme progressivement en spectacle. Ou c'est la mise en spectacle d'un rituel qui alterne avec du jeu. Ou c'est les négociations à propos de la mise en scène d'un spectacle qui est intégré dans un jeu, qui est intégré dans un rituel. Il y a l'enchassement, il y a l'alternance, il y a plein de trucs de façon. Et notre boulot à nous, c'est de voir comment est-ce qu'on peut défaire ces. Comment est-ce qu'on peut identifier les composantes de ces événements empiriques et qu'on peut identifier les principes de leur articulation. Et ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans un truc taxonomique. Il n'y en a pas de rituel ou de truc, ça n'existe pas. Il n'y a que des événements empiriques complexes, et nous avons des outils pour pouvoir les démonter, pour voir comment ça marche, comment est-ce qu'ils acquièrent une certaine efficacité à un match de football. C'est évident que c'est à la fois un spectacle, un jeu, et puis probablement un rituel, et puis des négociations quotidiennes, il y en a plein là-dedans. Mais justement, ça ne suffit pas de dire, ben oui, c'est tout ça. Non, il faut dire que comment est-ce que c'est articulé, parce que la façon que c'est articulé lui donne une efficacité particulière. Et que c'est, il y a des choses intéressantes. Moi, je m'intéresse beaucoup à la danse rituelle. Bon. Ce qui est génial, c'est que la danse rituelle, elle est en continuité, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir avoir la danse qui est en même temps d'autant plus rituelle qu'il est danse. Bon, c'est quand même une histoire de. On peut avoir entre le jeu et la vie de tous les jours une sorte de truc d'interpénétration. Hein. C'est très labile. Hein. J'ai dit à mon chien
va chercher le bal, va chercher le bal, va chercher le bal, et puis à un moment donné, je dis non, non, ça suffit. Oui, ça va, il continue, il pense que bon, le jeu, est-ce qu'on joue ou pas? C'est comme ça, hein. Mais la même chose ici avec rituel et spectacle. Mais là, non. Là, non. C'est-à-dire que dans le jeu, dans le truc du football, c'est à la fois un rite, et c'est à la fois un spectacle et un jeu, mais pas en même temps pour les mêmes gens. C'est-à-dire que si les joueurs jouent sur le mode du spectacle, c'est-à-dire en faisant attention à combien leurs actions peuvent toucher d'autres tout en veillant à ce qu'eux-mêmes soient touchés par leurs actions, ben ils jouent mal. Du coup, bon, il y a plein de trucs intéressants, et en gros, c'est une plaidoirie que tout ce qu'on perd là-dedans, c'est l'aptitude à pouvoir désigner les trucs comme des rituels. Et le prix qu'on a payé pour pouvoir faire ça, c'est qu'on avait des définitions très lâches et molles de rituels, spectacles, des trucs un peu opportunistes, ethnocentriques, inévitablement. Et changeons la donne. Définissons de façon très réducteur ces différents termes, et ça nous sauvegarde la complexité des éléments empiriques, des événements empiriques. Et puis, c'est pas grave les réductions qu'on fait. Ce n'est que des modèles, on les change. Une semaine à l'autre, on peut les jeter et puis changer d'autres. C'est rien du tout. Mais au moins là, on assume, nous, les analystes, c'est nous qui faisons les modèles. Les événements, ils sont beaucoup plus compliqués que l'on pourrait espérer saisir. Nous, on essaye simplement de saisir certains éléments de ça. Bon, à ce moment-là, il faut assumer pleinement le boulot de réduction pour avoir les outils. Mais on peut multiplier, hein. On peut multiplier. Il y avait des gens qui, à un moment donné, des gens qui disaient, ah, mais tiens, c'est bloqué là, peut-être qu'il y a un groupe de famille dans lequel c'est doublement bloqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des interactions dans lesquelles, par exemple, les gens interagissent, mais les dispositions des uns et des autres sont... Il est attendu que ça n'a rien à voir avec la sanction. Bon, par exemple, la bureaucratie, l'interaction bureaucratique. Là, personne nie que moi et puis la personne à la poste, par exemple, avec on a des sentiments et des trucs comme ça, c'est non pertinent. Ou on peut dire l'inverse. Ça, c'est des trucs dans lesquels, donc, les dispositions des agents qui interagissent. Au niveau des dispositions seulement, leurs interactions, leurs actions ne comptent pour rien. Alors bon, ça j'ai dit, soit l'amour fou, soit, je crois qu'il y a, c'est un bon modèle de la douleur chronique. Parce que le truc des douleurs chroniques, c'est les gens avec douleur chronique, c'est qu'ils se plaignent toujours que les gens qui n'ont pas de douleur chronique ne comprennent rien. Et quand ils sont avec des gens qui ont la douleur chronique, ils disent, ah, ces gens-là se comprennent. Alors, voilà, enfin quelqu'un qui comprend ce que j'ai. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y a quelqu'un, c'est pas Jackson qui a étudié ça, et lorsqu'on regarde, en fait, il ne se parle pas. Non, mais il se comprend. Il se comprend. Bon, du coup, il doit avoir des bonnes choses. Voilà, six modes de. Bon, alors, finalement, il y a une sorte de rentabilité qui descend. J'avais un autre ici, d'autres. Travail, fête. Bon, on peut démultiplier. Hein. Ce n'est que des outils. C'est des petites constructions de modèles, quoi. Et ça fait que le rituel est un truc relativement abstrait. C'est pas un truc. C'est une sorte de c'est des modes, une façon de faire attention à ce qu'on fait. C'est tout. Et qu'il y en a plein d'autres et qui sont combinés. Donc ça, c'est une direction, vous voyez. Et l'autre direction, qui est juste, je vais juste mentionner, c'est que tout ça, cette théorie du rituel repose sur l'idée qu'on doit analyser les actions, car les actions sont le lieu où il y a une complexification qui fait que ce n'est pas réductible à l'être quotidien, et que ces actions-là définissent des relations entre moi et la Vierge Marie, entre moi et ma maman lorsque j'ai mes premières règles. Il y a toute une famille de rituels, notamment celles qui les rituels qui relèvent des pratiques New Age et néo-païens, qui tout simplement, ce modèle ne marche pas. Pourquoi ? Parce que dans ces rituels-là, l'action, ce n'est qu'un moyen. Ça n'est pas une fin en soi, ça n'a aucune valeur en soi. Si pour rentrer en contact avec la Terre, il faut faire comme ça, mais si pour vous, ça marche mieux, c'est bon. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait permet de faire advenir. Et là, tout le travail, la complexification, ce n'est pas sur les actions, c'est sur les dispositions. C'est-à-dire que dans tous ces rituels-là, il y a un énorme effort pour aplatir les trucs, pour rendre les actions aussi simples. Les gens écrivent des bouquins, ils n'arrêtent pas de causer, ils expliquent tout le temps. Ils font des métaphores, ils disent des interprétations. En revanche, ce qui est très compliqué, et les acteurs, les trucs cérémoniels du New Age et néo-païen travaillent beaucoup là-dessus, c'est qui fait les actions. Est-ce que c'est moi, ordinaire, ou est-ce que c'est moi qui essaie de retrouver certaines dispositions que j'associe avec des primitifs, des pré-chrétiens, et que justement, c'est quand je retrouve ça, hein, je passe mon temps, quand je vais dans un week-end pour marcher sur le feu, hein, je sais que, en fait, j'essaie de retrouver le moi qui ne connaît pas la peur. Moi, quand j'étais enfant, hein, j'étais spontané, et puis la socialisation m'a mis des sortes de bandes comme ça, qui maintenant j'ai peur. Or, peur, c'est quoi? C'est false evidence appearing real. C'est n'est que ça. Hein? Et donc, je dois maintenant retrouver cette moi qui ne connaît pas la peur. Et on bosse comme des fous hein, pour le faire pendant 4 heures. On fait des méditations, des visualisations, on tape des tambours, on se dévoile aux uns les autres. On arrive maintenant devant le truc du feu. Là, on est là devant les braises. Le type qui nous dirige dit, mais maintenant, visualisez donc une grande passage de feu avec du feu. Qui c'est un peu étrange. Hein. Je suis devant le feu et je dois visualiser. Mais bon, c'est typique. Et je marche, et quand le feu vous appelle, vous marchez dedans, et j'appelle, et puis j'arrive, ouais! Bon, celui qui fait ouais à la fin, c'est pas le moi qui connaît pas le peur. Hein? C'est-à-dire que c'est le moi qui aime les spaghettis et ce genre de choses. Donc, là, je suis en train de faire un truc comme ça. J'essaye de retrouver certaines dispositions, et c'est en tant que tel que j'agis, et ces actions me touchent. Et du coup, c'est qui moi? Tout c'est donc ce qui est là avant était aux côtés des actions. C'est quoi cette action-là? Ben, je sais pas, il faut le faire. Et là, c'est quoi ces gens-là? Ben, on ne sait pas, ça reste un peu. Donc il y a toute une autre famille de ritualisation où justement tout ce modèle relationnel ne marche pas. Il faut. Okay, voilà, j'arrête.
Merci beaucoup pour cet exposé très riche. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour ouvrir le débat? Moi j'ai une question, mais un peu compliquée. Je ne sais même pas si je vais arriver à la formuler étant donné ma fatigue. Mais en gros. J'arrive pas trop bien à situer dans le cadre du sujet qu'on analyse, parce que on a un sujet qui fait des actions et qui a des dispositions qu'on connaît de manière indirecte et auxquelles il faut pas s'intéresser, mais en même temps vous dites que dans le rituel on acquiert quand même un point de vue qui va reconfigurer nos rapports aux choses. Et en fait, du coup, ce que j'ai du mal à cerner, c'est la nature même de ce que c'est que cette reconfiguration de point de vue. Est-ce que c'est est-ce que par exemple ça pourrait être quelque chose comme un changement des schèmes de perception? Parce que je sais que dans votre analyse des rites d'initiation, vous avez utilisé aussi les travaux de Bourdieu. Et est-ce que par exemple le fait de voir apparaître de nouveaux nouveaux grumeaux qui n'étaient pas là avant, est-ce que ce ne serait pas lié au fait que ce changement de point de vue, c'est le fait d'acquérir dans le rituel, par le fait de faire un certain nombre d'actions, finalement quelque chose qui ne serait pas si loin d'un habitus? Est-ce qu'on peut penser quelque chose comme ça? Ou est-ce que. En fait, c'est ça, c'est la nature de cette recontextualisation que j'ai du mal à situer dans l'expérience subjective. Enfin, sa nature.
Je crois que c'est très variable en partie en raison du fait que. Les dispositions qui sont impactées par les actions, en fait, sont assez variables selon les gens. C'est pour ça que je ne peux ou je ne me permets, c'est-à-dire que normalement, on devrait pouvoir suivre un tas de gens qui font un rituel pour évaluer quelle incidence que ça a sur leur vie et sur leur façon de voir et comprendre. Je ne vais pas le faire.
Du coup, je ne me fonde que sur les actions pour dire que c'est organisé de telle sorte à, comment dire, à rendre probable ou à permettre d'anticiper certains types de changements. Mais c'est vrai que combien ça a ou pas, c'est difficile à dire. Non, mais je crois que c'est très variable. C'est très variable. C'est-à-dire que je me dans certaines par exemple dans les rites d'initiation, je crois qu'il y a, c'est plus facile parce que les gens qui sont initiés, en fait, ça revient à les rites d'initiation, ça ne fait que produire des initiateurs. Du coup, c'est des gens qui maintenant doivent agir en fonction de ce qu'ils ont, comment dire, ils doivent reprendre ce qu'ils ont fait, mais d'un autre point de vue de ce qu'ils avaient lorsqu'ils l'ont fait. Et du coup, là, on peut, je crois, peut-être saisir ce genre de choses, mais pour des rituels qui sont pas, qui sont moins comme ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que ça ne me gêne pas l'idée que ça entraîne une certaine habitude si j'allume le cierge pour la Vierge un peu. Je ne me sens pas bien dans un nouvel endroit si je n'ai pas fait ça. Dans une nouvelle vie. Bon, mettons. Mais je ne sais pas quel statut donner à cette truc-là. Non, j'ai du mal. Je ne sais pas. Mais encore une fois, malheureusement, je pars je pars d'un point de vue foncièrement anthropologique. Moi, je traduis ça, personnel, par les relations causales ne sont pas rentables comme objet d'étude. Donc, je m'intéresse aux formes. Tandis que cette question-là, qui est qu'est-ce que ça entraîne, ben, ça dépend un petit peu du langage qu'on utilise. Je suis mal situé pour le dire. Je crois que les gens le plus proche qui s'interrogent de ça, le plus proche, c'est les gens qui travaillent avec une perspective cognitiviste, par exemple. Mais les gens qui ont fait des choses brillantes là-dessus, c'est les gens de psychologie sociale. Tous ces trucs, ces protocoles expérimentaux. Je vais téléphoner. Bon, maintenant, ça n'existe pratiquement plus, les téléphones publics, mais je téléphone. Oh, je trouve un euro. Alors, maintenant, dans les 10 minutes qui suivent, je tombe sur un mendiant dans la rue. Je serais plus susceptible à lui donner ou pas. Bon. Et là, il y a quand même une énorme littérature sur ce genre de choses, quoi. Et on doit pouvoir faire la même chose avec le truc des rituels. J'imagine, mais le problème, c'est que ces genres de choses-là, ces genres d'expérimentation sont déjà beaucoup trop complexes pour les cognitivistes. Parce qu'il n'y a pas assez de contrôle, mais les psychologues sociaux sont des génies de protocole expérimental. La théorie n'est pas nécessairement très porteur, mais fabuleux, quoi. Non, là, je suis gêné, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que ce n'est pas une habitude, mais parce que je découvre les grumeaux. Évidemment, c'est pas comme si ils n'étaient pas là avant. C'est-à-dire que si le rituel me fait, du coup, je participe à ma culture, en fait. Ça représente un changement, un avant et un après dans mon petite vision de ma petite cercle, quoi. Si j'estime que moi, je vais pas. C'est pas la peine que je sorte ou que je cherche à me marier avec quelqu'un qui ne connaît pas la Vierge Marie, simplement parce que c'est un truc très important dans ma vie, quoi. Bon, je ne sais pas si disons, je vais résister et je vais dire non, c'est simplement la culture.
J'ai une autre question sur autre chose. Il y a quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, c'est le fait qu'il faut que ce soit des éléments disparates qui au sein du rituel et que du coup le rituel a cette vertu intégratrice, ça. Mais j'imaginais si par exemple je fais ma prière tout seul le soir, là a priori, alors je sais pas, est-ce qu'on pourrait dire que ici des éléments disparates ou est-ce qu'on dirait non, c'est un cas un peu particulier, un peu pauvre, il n'y a pas trop besoin d'intégration.
Oui, moi je dirais que c'est plutôt pauvre de ce point de vue-là, c'est-à-dire que, mais encore une fois, on ne sait pas. Non, mais je veux dire que c'est une question empirique en partie. Si je fais mon truc la nuit, comment je le fais exactement? Je suis habillé comment? C'est à quelle heure que je le fais? Que je me mets dans quelle position corporelle et compagnie? Mais encore une fois, c'est des directions, c'est des parties pris analytiques plus que des descriptions. C'est-à-dire que la question c'est plutôt, est-ce que c'est intéressant de regarder ma prière du soir comme rassemblant des éléments disparates en la même totalité ou pas? Il se peut que oui, de ce point de vue-là. Mais c'est certain, je crois, qu'il y a certains rituels qui sont mieux formés que d'autres, ou qui exploitent les potentialités de ça plus que d'autres, et ceux qui le font moins sont simplement plus passagères, individuelles, qui se stabilisent moins. C'est-à-dire que là, ça admet tout à fait l'éventualité qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup de rituels, on fait plein de rituels tout le temps. Simplement, il ne perdure pas. C'est-à-dire que, pour être un peu exagéré, mettons que je vais au restaurant et que j'ai un truc avec trois différentes assiettes, cinq verres, quatre couverts. Je pourrais vivre ça comme étant pouvoir faire ça, c'est simplement être une personne comme il faut, quoi. C'est simplement être un humain au sens plein du terme, de savoir pouvoir se comporter, hein, et que du coup mes actions ne sont que l'expression de mes dispositions, je le vis comme ça. Mais je pourrais aussi le vivre comme, voici les actions qui me sont imposées, qui me mettent en colère, ou qui au contraire me ravit, ou quelque chose. On pourrait dire que dans la mesure que j'y participe de cette façon-là, j'y participe sur un mode rituel. Et que du coup, c'est un événement rituel pour moi. Alors, elle est effervescente, quoi. Mais si maintenant j'ajoute le fait de coordonner ça avec d'autres, si j'ajoute le fait qu'il rassemble des éléments un peu contradictoires, si j'ajoute encore des trucs comme ça, ça tend vers la stabilité. Et une de ces choses serait cette sorte de composition d'éléments disparates dans un tout qui fait que c'est très évocateur. Et bon, mais du coup, ça serait autant de curseurs sur le qui contribuerait à la stabilisation des choses. Mais en fait, encore une fois, moi j'insiste beaucoup sur le fait que comment dire, le rituel, c'est nous qui créons cette idée. Les gens, les X quelque part, n'utilisent pas le mot rituel et en fait souvent utilisent plusieurs mots différents pour parler de différentes choses que moi je reconnaîtrais comme rituel. Du coup, c'est moi qui impose ça. Et je le fais pour des raisons ethnocentriques ou je le fais pour des raisons théoriquement motivées. Et là, j'essaye d'avoir un truc théoriquement motivé. Mais du coup, quand c'est les rituels en général, comme ça, c'est vraiment, c'est moi, il faut que j'assume que c'est parce que je trouve que parler de rituels éclaire le fonctionnement des événements complexes. Du coup, c'est vraiment des montages analytiques plutôt que des propriétés des choses. Mais encore une fois, je veux dire que une fois qu'on a fait ça, l'intérêt pour moi de ce truc-là, c'est que ça oblige à aller voir des événements empiriques. Et maintenant, parce qu'en gros, ce truc-là est tellement flottant qu'on peut compter rituel, c'est en principe comme ça, mais qu'est-ce que c'est grand rapport?
Est-ce qu'on ne modifie pas le processus quand on ajoute un peu de conscience ou bien on soustrait une stratégie? Est-ce que l'interaction même, est-ce qu'on est toujours dans le rituel? Est-ce que ça, on ne le modifie pas?
Ben, disons qu'on le encore une fois, il y a deux types de réponses. Une, c'est que justement les événements empiriques ne sont pas des exemples purs. Du coup, il se peut que justement l'intérêt, ce qui rend telle situation particulièrement efficace et saisissante, c'est que je suis toujours en train de danser du pied rituel au pied non rituel. Et que ça, c'est beaucoup plus intéressant que si j'étais franchement dans le rituel. Peut-être, pour certains trucs. L'autre chose, c'est que cette mode-là, disons, cette poids de stabilisation-là, voudrait que toutes les histoires stratégiques ou introspectives ou compagnie soient secondarisées. Mais encore une fois, c'est combien est-il intéressant de prendre cette optique-là pour comprendre l'objet. C'est-à-dire que je me marie, je pense à ma femme, je prends acte du fait que mes amis sont là, qui consacrent mon changement social, et gna. Qu'est-ce que veut dire l'amour témoigné par l'appareil étatique, rien. Mon cousin Georges, il se marie, il pense au match de football qu'il est en train de louper, il est marié comme moi, point. C'est-à-dire que à ce niveau-là, tout ça, ça ne compte pas. Maintenant, face à un mariage empirique, évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Et c'est là que les mariages empiriques s'avèrent beaucoup plus que le rituel de mariage. Il y a le rituel de mariage, il y a la négociation, il y a la mise en scène. Ah bon? Comment ces choses sont articulées? Et là, ça pose un problème que trop souvent on néglige parce qu'on prend le mariage comme ça doit être un rituel ou pas. Du coup, dans ce cas-là, oui, là ça compte. Mais, encore une fois, j'aurais tendance à chercher ça dans l'aménagement et l'organisation de l'événement plutôt que dans les effets que ça peut avoir sur les individus. C'est-à-dire, par exemple, quand je me suis marié, un truc qui était totalement une partie de l'efficacité de la loi, c'était un samedi, dans le truc du 11e. Mais il y avait une attente invraisemblable. On était comme pendant une heure, il y avait des gens qui allaient passer devant nous avec tous leurs amis, et puis nous, et puis d'autres. Et puis il y avait cette chose. Bon, et honnêtement, ça a contribué à l'efficacité de cet événement. Je ne l'ai pas vraiment pensé. C'était pas rituel, ça, dans le sens où ce truc-là. Mais c'était justement le fait que la ritualisation de cette chose qui n'en était pas était intéressante et a donné une certaine texture intéressante. Quoi. Du coup, ou je sais pas, un truc, je fais du yoga, je sais pas, hein, mais je fais du yoga, j'apprends certaines actions et ces actions sont censées induire chez moi certaines dispositions, certaines aptitudes à faire quoi? À faire des actions qui m'induisent des actions. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'aimerais faire avec quand je fais du yoga, c'est le banaliser, le rendre que ma vie soit yoga. Hein? Bon. Et du coup, aborder le rituel comme le yoga comme un rituel, c'est louper la moitié, quoi. C'est plus complexe. C'est ce processus de déritualisation, en fait, qui fait que le yoga, c'est fait quelque chose que boire un verre de lait ne fait pas. Quoi. Et que du coup, ça rapporte, comment dire, ça oblige à regarder des trucs empiriques pour voir un peu leur truc comme ça. Et là-dedans, c'est pas, non, il y a plein de choses, c'est pas évident, quoi. Surtout, si je peux me permettre, juste une seconde, dans ces autres rituels-là, le type New Age, dans ces trucs-là, qui marchent plutôt, donc, c'est plutôt comme ça, hein, la complexification, là. Le truc est dans l'action. Du coup, l'action est terminée, hey, le rituel est terminé, fini.
Mais là, ce n'est pas l'action qui détermine le côté rituel. C'est les dispositions des personnes qui agissent. Mais c'est les mêmes personnes, maintenant, ils vont aller là. Alors, le rituel est terminé ou pas? Pas évident que c'est terminé. Non, mais je veux dire, ça pose en fait plein de problèmes de genre d'élimitation du rituel. Et là, je crois que je milite pour un cadre conceptuel qui oblige à interroger des cas particuliers comme des cas complexes, et donc un cas suffisamment abstrait qui a comme première vocation de poser des questions plutôt que de l'interpréter des.
Est-ce que la règle ou la question normative, elle nous aide dans la discrimination, dans la distinction des différents modèles
Normative dedans ou dites plus?
Oui, à l'intérieur de chaque modèle, est-ce que cette question des différentes règles,
ouais.
Le normatif en termes de.
Oui, moi, c'est-à-dire que je crois que. Si on prend ces différents régimes d'attention comme des règles entre guillemets normatives, oui, c'est-à-dire que c'est cette histoire d'un peu d'attracteur, c'est-à-dire je préfère le côté attracteur que règle, parce que mais bon, c'est difficile, c'est difficile parce que en gros les règles là, c'est il faut faire certaines actions. La norme ensuite, c'est faire attention c'est d'apprécier que c'est l'accomplissement de ces actions ont une incidence sur ceux qui les font. Ça, c'est pas une règle qui va invalider de la même façon que ne pas faire les actions qu'il convient de faire. Si je fais pas les actions qu'il convient de faire, j'ai pas fait le rituel, point. Du coup, là, c'est vraiment une règle constitutive. Mais si, en fait, je l'ai fait sans vraiment penser, ben, on peut pas. Ben, je l'ai fait, le rituel. Tandis que, ici, par exemple, ou là, si je danse pas bien, quand même, je danse. C'est-à-dire que, ou si je joue mal, quand même, je joue. Et du coup, la règle, elle est beaucoup plus en termes de plus ou moins. Tandis qu'ici, si je ne fais pas ce qu'il faut, je ne l'ai pas fait, le rituel. Et du coup, je crois qu'il y a des types de, disons, des trucs ici qui sont un peu spéciales pour l'histoire de normes. Comme normes entendues comme principes qui régissent l'identité ou l'aptitude à participer à ces trucs. Ce que je ne vois pas, ou je vois à un autre niveau, c'est les normes qui disent quelles sont les bonnes actions, quelles sont les bonnes dispositions. Et là, je vois plutôt le côté ethos qui a régi ça, ou le truc reconnu comme autre que les conventionnels, comme ça. Ou par exemple, là, parce que le problème. Si moi je suis là, on est en train de faire un rituel. Là, les actions, dispositions, les actions, dispositions. Qu'est-ce qui fait que nos actions se coordonnent? Dans le truc comme ça, il y a cette sorte de feedback. Et du coup, la norme, elle est quand même instaurée, auquel chacun d'entre nous, on contribue à le maintenir. Ici, c'est parce que les actions sont stipulées. Il faut le faire comme ça. Mais ça ne marche pas du tout pour le théâtre, par exemple. C'est pas du tout ce qui fait que moi et quelqu'un d'autre avec qui je suis sur scène, que nos actions coordonnent, c'est pas à cause d'une stipulation, c'est parce qu'il y a, une sorte de méta-norme, quoi, qui régit nos trucs, qui va être quelque chose de genre texte, entre guillemets, au sens large, quoi. L'aptitude à la narration. Du coup, j'ai tendance à voir des normes différentes, mais j'ai besoin de normes pour pouvoir identifier les trucs.
Mais la façon qu'ils interviennent, j'ai l'impression que c'est assez différent. Je ne suis pas sûr si ça répond.
Je me demandais si c'était en fait une sorte d'élément discriminant entre les différents modèles. Et à un moment, dans votre réponse, on entrevoyait la question d'efficacité.
Oui. Parce que, tout à fait. Non, mais je crois que la forme de la norme est discriminante. Plus que le contenu.
C'est-à-dire, comment la forme de la norme?
Ben là, c'est une stipulation qui porte sur l'action. Il faut en avoir un.
Ça, peu importe.
Et ça serait la règle, disons. Là, c'est cette sorte de ethos, c'est-à-dire cet ensemble de trucs qui a une sorte de code culturel.
Derrière.
Voilà. Là, c'est des conventions qui sont reconnues comme distinctes des conventions régissant ce qui est régi, l'ethos. Quoi. Là, ça serait texte, entre guillemets, pour le théâtre, proportionnalité, pour la danse. Bon, on peut ajouter tout ce qu'on veut, là, et tous les genres. En gros, moi, ça, c'est l'art. Mais du coup, bon, c'est comme les normes artistiques. Pardon.
Je voulais savoir pour la danse rituelle, est-ce que ça peut être judicieux, je parle spécifiquement pour une danse rituelle, ça peut être judicieux d'y apporter des équations mécaniques et fractales?
Mécanique dans le sens biomécanique ou
biomécanique, mais mécanique des corps.
Fractalisation. Écoute, moi, bon, ça va surprendre, mais moi je crois que oui. Mais je suis pas sûr si c'est exactement ça.
J'y crois aussi, c'est pour ça que je pose la question.
Parce que les trucs de la. Parce que grosso modo, je reprends mes bidules là. Et un des A. Donc ça, c'est moi qui danse avec quelqu'un. Là, l'idée, c'est que mes accords, c'est grosso modo là que c'est mes actions touchent l'autre, ses actions touchent moi. Mais quand même, il faut que moi je sois à l'écoute de mes actions. Et que lui, il est à l'écoute de ses actions. Comment est-ce qu'on se coordonne? Pendant longtemps, je pensais qu'en fait, on se coordonne les deux personnes qui dansent ensemble un peu à la façon qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire avec le circuit de rétroaction, quoi. Moi, je fais comme ça, l'autre vient là. Tous les danseurs me disent non, c'est absolument pas comme ça. Qu'en fait, les gens qui se coordonnent lorsqu'ils dansent ensemble, les actions, leurs actions respectives se coordonnent et nous, on est là pour... on est le médium, le support pour ce truc-là. Et c'est fondé sur quoi? Je dois supposer qu'il y a une certaine qualité de l'action qui permet à ce que ça puisse se faire. Cette qualité-là, et c'est quoi ce côté fractal, je l'appelle la proportionnalité. Et j'entends la perceptibilité d'une relation entre partie tout. C'est tout, point. Que ça soit partie de mon corps avec le reste de mon corps, que ça soit moi vis-à-vis d'autres, que ça soit, ça peut être des métriques spatiales ou des métriques temporelles comme la pulsation, n'importe quoi, mais ça peut aussi être, les danseurs ils ont plein de vocabulaire là-dedans pour l'énergie ou la tensionnalité ou tout comme ça. Et ce truc-là doit être fractal. C'est-à-dire c'est à tous les niveaux, en fait, que cette qualité du mouvement qui permet indépendamment des figures chorégraphiques à des danseurs de s'ajuster à faire des trucs ensemble, mais elle est l'équivalent dans le cas du théâtre que le texte entre guillemets, c'est-à-dire la susceptibilité à la narration, quoi, mettons, comme ça. Mais la susceptibilité à la narration comme règle générale de théâtre, il faut que ça soit fractal, c'est-à-dire il faut que ça soit à tous les niveaux. Et que le plus qu'elle est à plusieurs niveaux, le plus qu'elle est riche, qu'elle est pleine, et je crois que la même chose avec la danse. Et la proportionnalité en danse, il faut que ça s'ajuste avec le pauvre corps, puisque c'est la proportionnalité dans les mouvements corporels. Du coup, si moi je ne peux pas mettre mon bras là, ben je ne peux pas mettre mon bras là, et puis voilà. C'est pour ça que je le vois plutôt comme des contraintes biomécaniques. Pour ça, oui.
Pour ça.
Mais parce que sinon, c'est grand ouvert. Chez les danseurs, ils peuvent faire leur proportionnalité avec l'attention. Je veux dire qu'on est cinq, et puis moi, je mets mon tension dans la main, l'autre, il va mettre son poste dans l'épaule, et l'autre, mais vu de loin, c'est cinq personnes qui sont là. Comme ça. Mais bon, si je dois l'apprécier comme danse, je le vois pas comme nécessairement la mécanique. Ça peut l'être, mais c'est
plus... Pour être plus spécifique, je parle de break.
Et ouais.
Une des formules qu'on a pour le windmill, c'est la masse par la vélocité.
Oui, mais ça, comment dire, ça c'est la théologie. C'est-à-dire, ça c'est les pratiquants qui ont toute une modélisation de leur pratique auquel ils se réfèrent. C'est comme les danseurs avec les points de pivot, toute la cosmologie interne, il y a les trucs. Ça, c'est pour moi, en tout cas pour la compréhension du fonctionnement du truc, pour moi, c'est du facultatif. C'est l'équivalent de l'exégèse, si c'était des rituels religieux. C'est-à-dire que c'est des trucs qui informent, mais qui sont des appréhensions partielles d'une situation et pas les mécanismes de son fonctionnement. Ceci dit, je crois qu'honnêtement, ces trucs-là doivent avoir des traductions biomécaniques au sens corporel, tout concret, quoi. Direct. Du coup, je ne crois pas que c'est pas des langages totalement qui vont dans le sens différent, quoi.
À moins qu'il y ait une dernière question urgente, je vous propose...